Je pars au travail le cœur beaucoup plus léger ce matin. Ouf, ça y est, le feu, ça va mieux là-bas en Californie. Et les vedettes et les stars vont pouvoir enfin réintégrer leur maison. Eh bien, heureusement, parce que je me suis fait du souci. Enfin, on nous l'a répété à plusieurs reprises. Ça y est, maintenant, c'est sûr, ils vont pouvoir tous retourner dans leur maison. Bon, voilà. Eh bien, bonne journée à tout le monde. Au revoir.
1 million de Californiens sont déplacés par les flammes du côté de San Diego. C'est le drame étalé en long et en large dans tous nos journaux. Depuis plus d'un mois, le Togo, le Bénin, le Burkina Faso sont inondés. Les récoltes sont détruites, la famine, les épidémies menacent. Pour combien de personnes, on ne le sait pas. Plusieurs millions sûrement. En tout cas, rien dans nos journaux. Alors que la situation ne fait que s'aggraver dans ces pays parmi les plus pauvres du monde. Ah, au fait, Lucky Dubé est mort, assassiné ces jours-ci. Pas le temps pour l'Afrique.
Tout ça, c'est très bien, ta démonstration est lumineuse. Mais comment faire la révolution? Et qui va la faire? Voilà, Daniel, je voudrais que tu nous donnes un petit peu des repères et pas seulement une analyse diagnostique, comme un bon médecin sur un cadavre. Merci.
Bonjour, chers Homo sapiens. Ce matin, en écoutant la chronique de M. Sylvestre, le chantre de l'économie libérale, j'ai eu une élimination soudaine. En effet, quand il disait que le principal avantage du Grenelle de l'environnement était de faire comprendre aux radicaux écologistes que la croissance devait continuer, j'ai compris soudain que ce qui menait notre société à sa perte n'était pas tant la croissance économique que la connerie humaine. Et là, il n'y a rien à faire. Allez, au revoir et adieu. C'était Jean de Brest.
Ouais, salut Daniel, c'est Eli, à Brive, chauffeur poids lourd. Mais pas dans le grand routier. C'est ce qu'on appelle la messagerie palettisée. Et tout le monde parle que des grands routiers, que des grands routiers, mais les petits qui vont dans les centres-villes livrer leur palette avec une batterie dessus, parce qu'il faut le faire, que c'est comme ça. Alors bon, c'est bien de parler des gros, c'est bien de parler aussi de ceux qui polluent les centres-villes, et des fois pour pas grand-chose, pour rien du tout. Mais il faut le faire, c'est comme ça, parce que c'est garanti. Le client, sinon, il nous donne plus de boulot. Allez, merci pour tes émissions, ciao.
Bonjour, bonjour. Et ben voilà, en fait, ça fait longtemps que j'écoute votre émission et pour une fois, je me décide à réagir. Et ben voilà, tout simplement, je travaille dans le transport et j'ai écouté encore avec encore plus d'attention votre émission hier et je voulais juste apporter une petite pierre à l'édifice. Effectivement, là, je suis sur la route et je regarde un peu ce que j'ai dans mon camion et ça me désole. Ça me désole vraiment. En fait, une grande marque de voitures françaises au logo fait venir des pièces d'un peu partout en flux tendu. Et malheureusement, quand je regarde, et ben aujourd'hui, j'ai un emballage vide qui me prend à peu près un quart de la SMI et qui doit arriver de toute urgence pour pouvoir y foutre des pare-chocs dessus. Et je vais certainement repartir avec pas grand-chose pour un autre site de chez cette fameuse marque. Et ben voilà, je sais, ça me fait honte et j'en suis pas très très fier, mais je gagne ma croûte. Voilà. Désolé.
Oui, bonjour, c'est Georges à Paris. Je téléphone parce qu'il y a un sujet que vous n'avez pas abordé concernant le transport. C'est le transport maritime qui dégage une pollution démentielle. Et ce qui corrobore ce que vous dites concernant l'importation de tas de produits qui viennent d'Asie, qui nous submergent et qui tue notre emploi, qui pollue notre emploi. Enfin, ça, c'est un autre sujet. En fait, la pollution maritime est colossale. Et ça, on n'en parle pas du tout. Voilà. Après les poids lourds, les bateaux et les avions aussi. Voilà. À bientôt. Au revoir.
Bonjour, bonjour aux auditeurs de France Inter. Gérard, le papy écolo en colère. Voilà, moi, je voulais dire une chose. Un gros effet d'annonce, M. Al Gore ferait un discours cet après-midi pour donner les résultats donc du Grenelle de l'environnement, ainsi que M. Barroso. Il faut quand même savoir une chose, c'est que Barroso et Sarkozy sont quand même parmi les deux plus anti-écolos qui soient au niveau de l'Europe. Car le mini-traité, si je ne m'abuse, n'a pas enlevé tout ce qui fâche au niveau écologie, entre autres, l'article 227 avec ses alinéas Je vous propose à tous de relire le traité constitutionnel et de voir cet article 227 qui va fomenter et protéger l'agriculture scientifique, technique en Europe. Or, c'est quoi cette agriculture? Si je ne m'abuse, c'est l'agriculture OGM, c'est l'agriculture pesticide, c'est l'agriculture des engrais de synthèse. C'est tout ce que nous refusons et détestons. Voilà. Alors, Monsieur Barroso, je ne sais pas comment on va pouvoir l'amener à composer avec ça, mais c'est un peu un scandale. Merci.
Bon, ben voilà, ça chauffe hein, du côté de la planète et du côté de l'écologie. On vous le dit, on vous le redit, le Grenelle de l'environnement arrive à sa conclusion avec une déclaration attendue vers 17h du président de la République qui ne sera pas seul. Et voilà, terme de ce Grenelle de l'environnement, des centaines de représentants, d'associations, de l'État, du patronat, des syndicats, des collectivités locales, etc., qui pendant toutes ces semaines se sont causé et ont causé de climat, d'énergie, de biodiversité, de santé, d'environnement, de pratiques agricoles, etc., etc. Et voilà la question de l'écologie qui prend la première place ces jours-ci dans le paysage médiatique et politique et social français, ce qui n'est pas trop mal finalement pour ceux qui, et surtout pour ceux qui s'intéressent à ces questions-là depuis fort longtemps. Que peut-on attendre de ce Grenelle de l'environnement? Il y a beaucoup de doutes, beaucoup de scepticisme, et on va en parler pendant cette heure entière avec de très bons observateurs, très fins observateurs de cette scène. Hervé Kempf, qui est à la fois journaliste et écrivain, journaliste au Monde et écrivain. Claude-Marie Vadreau, également journaliste et écrivain. Tous deux suivent les questions d'écologie pour leurs journaux. On aura aussi Paul Ariès au téléphone. Paul Ariès qui, lui, a été l'animateur d'un contre-grenelle de l'environnement et qui a créé un journal qui s'appelle Le Sarcophage. Le Sarcophage, c'est tout dire. On aura aussi José Bové au téléphone. Également Marie-Christine Blandin, qui est sénatrice du Nord, qui, elle, a participé à ce grenelle de l'environnement. Et puis, ça fait beaucoup, mais on va essayer de faire tout, à New York, on appellera Jean Ziegler. Vous connaissez évidemment Jean Ziegler, qui est rapporteur de l'ONU pour le droit à l'alimentation et qui va intervenir dans quelques instants aux Nations Unies pour demander un moratoire sur les agrocarburants qui l'inquiète beaucoup en tant que spécialiste et observateur lui aussi du droit à l'alimentation. Les agrocarburants, à ses yeux et selon ses expertises, risquant d'augmenter la famine dans le monde. Un menu chargé dans la bassie J'y suis, donc quelque chose de passionnant, peut-être passionné, sortira de ça d'ici à 16h. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la bassie J'y suis au 01 56 40 37 37.
Juste deux chiffres, un poids lourd de 40 tonnes sur le plat, sont trop fortes en roulant tranquille, c'est 33 litres au 100 km. 33 litres au 100 km. Voilà. Salut Daniel.
Le prochain repère de la bâche où j'y suis vous invite à débattre le vendredi 26 octobre à 20h30 avec Monsieur Hervé Pratt, animateur du réseau Sortez du Nucléaire à l'ambassade jurassienne, anciennement l'hôtel de la Poste à Nans-sous-Sainte-Anne, près des sources du Lison, dans le Doubs. Bonne journée. Merci.
Salut Daniel. Salut à tous les AMG. Le Café Repère de Brignoles, dans le Var, vous accueille jeudi 25 octobre à partir de 20h au Café L'Oasis, situé parking des Augustins. On parlera Grenelle, immigration, retraite. Enfin bref, on refera le monde autour d'un verre. Merci à Daniel et à toute l'équipe de la Bastille J'y suis, et à ce soir à l'Oasis, à Brignoles.
Oui, bonjour. J'ai entendu ce matin que nos élites s'étaient réunies dans le Grenelle de l'environnement et que
de leurs esprits fertiles était née la solution au problème. En fait, si la planète est polluée, c'est à cause de ces salauds de pauvres qui roulent avec des vieilles voitures. Mais bon, rassurez-vous, ils nous ont trouvé une solution à laquelle personne n'avait pensé avant. On va nous mettre une taxe. Dis papa, c'est quoi l'intelligence, c'est ça? Bah, j'espère que je l'aurai pas hein, quand je serai grand, parce que vraiment, je voudrais pas leur ressembler. Allez, merci, au revoir et bonne journée.
Salut, c'est Daniel Mermet, là-bas si j'y suis, avec Antoine Chao, Grenelle de l'environnement, la croissance ou la vie. Flight number 2, arriving from New York. Voilà, alors on va tout comprendre grâce à nos confrères et amis journalistes et écrivains Hervé Kempf et Claude-Marie Vadreau. Je vais commencer par le plus ancien, tiens. Claude-Marie Vadreau, qui est journaliste, grand reporter et un vieil observateur des mouvements écologistes, et Hervé Kempf, qui est l'auteur, vous en souvenez, ami fidèle de la basse, j'y suis, de « Comment les riches détruisent la planète ». Ça nous avait bien plus ce titre, et puis le livre qui était derrière. Bien, alors, l'un et l'autre, vous avez suivi ce Grenelle de l'environnement attentivement. Impression, Claude-Marie Vadreau ?
D'abord positive. C'est la première fois que des gens qui ne se voyaient jamais se sont rencontrés, se sont parlé. Et quand je dis des gens, c'est les mouvements associatifs qu'un député de l'UMP qualifiait hier soir de groupuscule, et puis les gens du MEDEF, les agriculteurs, les syndicalistes. Jamais ces gens ne s'étaient parlé, ne s'étaient rencontrés. Et ça, c'est quelque chose de positif. Il y a même eu contagion pour un certain nombre de gens. C'est vrai que certains syndicalistes de la CGT, certains membres du MEDEF, même certains membres de la FNSEA, ont découvert la réalité de problèmes dont ils entendaient parler depuis longtemps dans les journaux, mais auxquels ils ne croyaient pas. Il y a vraiment eu quelque chose d'important qui s'est passé.
Hervé Kempf, ça vous a donné aussi l'impression de nager dans le bonheur ?
Peut-être à ce point-là, non. Et si je nage dans le bonheur, ça serait pour des raisons personnelles. Non, mais c'est très positif. Donc je suis d'accord avec ce que vient de dire Claude-Marie. Et puis, sur le fond, il y a quelque chose d'important. C'est que l'appareil d'État, l'oligarchie, une partie d'entre elles en tout cas, a avalisé implicitement et quasiment consciemment une thèse importante des écologistes. C'est on peut faire mieux avec moins. C'est-à-dire qu'on rentre dans une logique de consommer moins d'énergie, c'est quelque chose qui est acté, de changer les transports et d'aller plus vers des transports collectifs et moins d'autoroutes, voire pas d'autoroutes nouvelles, moins de consommation aussi de matière, d'énergie renouvelable, etc. Donc là, il y a quand même un changement de logique, un cliquet. On pourrait aussi citer l'agriculture productiviste, et puis là, on a un vrai stimulant pour l'agriculture biologique. Donc sur le fond, je pense quand même que ça veut dire une partie de l'oligarchie, une partie de la technocratie, une partie des milieux économiques même, une partie des décideurs commence à comprendre on peut faire mieux avec moins. Et ça, c'est quelque chose de très important.
C'est pas la décroissance.
C'est absolument pas la décroissance. Et bizarrement, et c'est là que la contradiction est dans le système, il continue. Et si on écoutait Borloo, par exemple, qui est sympathique et qui parle beaucoup avec un réel enthousiaste, il dirait, mais on va faire les 30 glorieuses. Ils sont encore dans l'idée, on va faire de la croissance verte, on va faire de la croissance écologique. On va faire un système économique qui ne change pas dans ses fondements, mais avec un impact environnemental moins grand. Mais effectivement, quand il dit plus d'autoroutes, il a dans l'idée « Ah, mais on va faire des TGV, donc on va remplacer des grands chantiers, etc. » Donc on n'est pas totalement sorti de la logique du développement à tout craint, de cette croissance matérielle, mais il y a quand même des articulations logiques qui se font différemment et des changements de tendance réelles.
Claude-Marie Vadreau aussi, la même impression de quelque chose d'important s'est passé, est en train de se passer.
Quelque chose d'important s'est passé, mais comme dit Jacques-Olivier Barthes du WWF, on a porté la parole des associations, qui est une parole neuve, mais on n'a pas fait la révolution. Et je suis tout à fait d'accord avec Hervé Kempf. La logique de croissance n'est pour l'instant pas remise en cause. Or, c'était là le plus important.
Voilà, la logique de croissance. Dans notre, dans un quotidien qui s'appelle Le Monde, on avait un papier il y a quelques jours qui opposait un peu Jacques Attali avec lui-même, hein, le jeune Jacques Attali et l'Attali d'aujourd'hui, d'une part, et d'autre part, l'idée d'une croissance qu'on irait même chercher éventuellement avec les dents, et puis ce à quoi vous avez assisté depuis des semaines, c'est-à-dire les problèmes écologiques. Est-ce que on peut emboîter, on peut rendre compatible croissance et écologie?
Bah, personnellement, je vous dirais non, mais j'insiste beaucoup sur la notion de croissance matérielle ou de décroissance matérielle. Donc croissance, décroissance, pour l'instant c'est des mots, ça n'a pas grand sens. En revanche, on est face à la crise écologique majeure et importante, on doit aller vers une décroissance matérielle, c'est-à-dire diminuer notre consommation de matières premières, de matières physiques, d'énergie, collectivement. Ça ne veut pas dire, pour ceux qui tiennent absolument à la croissance, qu'on ne va pas augmenter les biens non marchands, les biens avec un impact, ce que les économistes appellent les services. Donc on pourrait faire une croissance, mais une croissance dématérialisée, en allant vers une baisse de la matière. Mais je réponds plus précisément, on effectivement, et vous avez raison de rappeler le rapport Attali au même moment du Grenelle dans l'environnement, on a bien là cette contradiction totale de ce que vous me permettrez de continuer à appeler l'oligarchie, c'est-à-dire d'un côté, on va vers quand même le changement de logique qui est amorcé par le Grenelle, mais quasiment au même moment, les mêmes jours, on a... Excusez-moi pour lui, quelqu'un qui est fou furieux, parce que quand on lit ce que des gens qui disent il faut 5% de croissance dans un pays comme la France, il y a une vraie logique, enfin je retire le terme de fou furieux, mais le président de la République va à la fois chercher à dire oui, on va suivre les pronostics du rapport Attali et puis le Grenelle de l'environnement. Non, quelque part,
c'est impossible, c'est pas compatible.
On peut pas faire les deux choses. On peut pas à la fois lutter contre l'étalement urbain et l'urbanisation et dire, eh ben, il faut plus de commerce, plus de grands commerces et travailler tous le dimanche, quoi.
Vadrault, cette contradiction, vous êtes d'accord? Il y a un truc qui ne va pas là.
Oui, il y a une contradiction, mais de toute
façon... Elle n'est pas nouvelle.
Elle n'est pas nouvelle, et moi je vais doucher mon propre enthousiasme de tout à l'heure.
Il y a
des décisions qui ont été prises par les groupes de travail, il y a des annonces qui seront faites devant le gouvernement et devant Al Gore par le président de la République aujourd'hui, mais qu'est-ce qui va se passer après? La logique parlementaire... Ces parlementaires UMP qui traitent les groupuscules d'écolos, de gauchistes, en oubliant que la plupart des associations regroupent plus de militants que la plupart des partis politiques en France, ils vont se retrouver dans leur logique parlementaire. Et c'est là, Madame Kosciusko-Morizet, secrétaire d'État à l'écologie, le sait bien, qui a mis 3 ans pour faire passer le principe de précaution dans la Constitution, auprès de sa majorité. Et c'est là que les problèmes vont se poser. C'est là que les parlementaires, surtout les députés d'ailleurs, plus que les sénateurs, vont s'efforcer de mettre à bas toute cette belle construction intellectuelle des groupes de travail, du président, de Jean-Louis Borloo et de Madame Kosciusko-Morizet.
Hervé Kempf, vous partagez ce pessimisme?
Oui et non. Alors je vais commencer par le non, parce qu'il y a quand même des choses qui ont été... mis sur la table, des mots qui ont été employés, des raisonnements logiques nouveaux qui sont apparus et qui ont été surtout officialisés. Et puis deux, il y a quand même un ensemble de mesures qui engagent l'État.
On va parler quand même des mesures.
Voilà, c'est ça. Quand il est écrit, et je pense que le président de la République, dans une heure ou dans quelques minutes, va le confirmer, quand on dit l'agriculture biologique représentera 6% de la surface agricole utile en 2010, quand on dit on va arrêter l'augmentation des capacités routières, quand on dit on va interdire les lampes à incandescence. Voilà, un certain nombre de choses. Quand on dit on va aller vers un bonus-malus en fonction de l'impact environnemental des automobiles, quand on dit on lance un grand plan d'efficacité énergétique dans les bâtiments publics et privés, c'est du lourd. C'est quand même l'État qui existe encore et qui engage une politique publique. Donc voilà, reconnaissons ça et je pense que c'est quand même quelque chose de lourd. Alors, après, effectivement, il va y avoir, mais pas seulement au Parlement. Je pense, dans les régions, combien d'élus locaux, de présidents de régions, y compris de gauche, je pense à Alain Rousset, je crois, en Aquitaine, ou à Monsieur Destot, qui laisse urbaniser toute la ville de Grenoble, etc. Qu'est-ce qu'ils vont dire par rapport aux arrêts de programmes autoroutiers, etc. Donc, on va avoir aussi, localement, beaucoup de difficultés.
Oui, le problème de toutes ces mesures qui sont séduisantes, qui seront... confirmées pour certaines d'entre elles par le président de la République tout à l'heure, c'est qu'elles doivent passer par le système parlementaire. Ce ne sont pas simplement des décisions du gouvernement. On a encore en France un parlement qui a son mot à dire, et ces parlementaires font d'ores et déjà l'objet des groupes de pression qui s'approchent d'eux pour leur dire « Attendez, attention, vous n'allez pas vous laisser avoir par ces écolos. »
Les groupes de pression, c'est-à-dire ?
Le MEDEF, la FNSEA, certains syndicats. Je ne pense pas que la CGT soit devenue un syndicat écologiste depuis deux mois.
D'autres lobbies ?
Les producteurs de produits chimiques. Et tous ces gens-là, je disais tout à l'heure qu'ils se sont retrouvés très bien ensemble. Mais quand ils retournent dans leur syndicat, on leur dit « Mais vous vous êtes fait avoir par les écologistes. Attention, vous avez accepté n'importe quoi. » Je pense à la trame verte, c'est-à-dire cette continuité du territoire pour que la biodiversité soit préservée. Tout le monde s'est mis d'accord dans le groupe qui s'est réuni ce matin sur cette trame verte, jusqu'au moment où le représentant du MEDEF est retourné dans son syndicat et on lui a expliqué que oui, la trame verte, mais il fallait pas que ça soit contraignant. Donc vous voyez, toutes ces mesures, elles ont été finalement au-delà de ce que souhaitaient les groupes de pression parce que des gens, hein, on l'a dit suffisamment, se sont trouvés confrontés à la réalité des problèmes et ont été contaminés par l'enthousiasme d'un certain nombre d'associations de protection de la nature et de l'environnement. Et
une chose qui vous a surpris, c'est quand même les autoroutes. Geler la construction d'autoroutes, de nouvelles autoroutes. Kempf ?
Moi, ça me paraît très important. Mais alors, comment ça se joue ? En gros, ce que disent Borloo et Kosciusko-Morizet, et ce que sans doute dirait Sarkozy, c'est une nouvelle croissance, etc. Maintenant, on va faire une croissance propre, environnementale. Oublions le mot croissance, on s'en fiche. Simplement, on va réorienter l'activité économique d'une autre manière. Pour reprendre cet exemple des autoroutes, on arrête les autoroutes. Mais on va lancer 4000 km de TGV. Ah, du point de vue du BTP, pas de problème. On va couler du béton de la même manière, etc. Le problème, c'est est-ce que environnementalement, c'est intéressant ? Du point de vue écologique, oui, il faut arrêter les autoroutes pour aller vers d'autres modes de transport. Mais si c'est pour faire des TGV, alors qu'on a besoin d'une irrigation beaucoup plus fine du territoire, qu'on a besoin de remettre en état, des gares un petit peu partout, de refaire fonctionner les lignes qui existent. Voilà, c'est ce genre de questions qui peuvent se poser. Je vais prendre un autre exemple. Énergie renouvelable. Alors on va dire, on va développer beaucoup d'énergie renouvelable. Mais si on n'est pas dans une logique de diminution de la consommation d'énergie globale, on peut avoir là, avec l'énergie renouvelable, l'apparition de nouveaux lobbies qui apparaissent en disant ben c'est très bien, on va couler du béton, on va faire des éoliennes ou des toits ou des machins, sans changer vraiment de logique. Donc le risque, et c'est là que le mouvement écologiste et social doit être attentif, c'est qu'il faut s'assurer qu'on est bien dans un changement de logique économique, mais qu'on n'est pas dans une substitution de moteurs de croissance ou de moteurs de profit différents.
EPR, nucléaire, là vous dites que ça ne bouge pas là-dessus.
Non, ça ne bouge pas et j'allais dire, il y a un autre aspect auquel il faut être important, pour le mouvement écolo et pour le mouvement social en général. Le discours pourrait être dorénavant de dire, mais messieurs les écologistes, on a fait beaucoup pour l'environnement, alors maintenant vous vous taisez. Et donc d'avoir une répression plus forte par rapport à tous ceux qui continueraient, parce qu'il va y avoir des motifs de bagarre essentiels, à sortir leur petit drapeau ou leur banderole ou simplement à manifester un certain nombre de choses, et avoir une réponse beaucoup plus sévère, et je pense notamment aux militants anti-nucléaires et à ceux qui recommencent à travailler là-dessus, pour faire entendre cette contestation du nucléaire, une répression beaucoup plus sévère, en disant, il y a le grand consensus, donc on ne proteste pas. Et ça, c'est aussi une difficulté qui pourrait se produire, par exemple, je pensais au TGV, il y a plusieurs cas de projets de TGV qui posent des problèmes, les opposants au TGV risque de se entendre dire, mais écoutez, on a fait beaucoup pour l'environnement, oui, maintenant vous taisez.
Oui, les décisions sont prises.
Voilà. Donc la question du nucléaire reste toujours pendante, elle est toujours là, elle est toujours aussi vitale, et j'allais dire, pas tant en tant que nucléaire lui-même, mais par rapport à la logique générale de la politique énergétique, c'est-à-dire on n'est pas encore là dans un système d'État qui accepte réellement d'aller vers une baisse de la consommation d'énergie.
Les pesticides ?
Je crois que là, il y a une prise de conscience dans la mesure où les paysans ont constaté les dégâts sur leur propre santé, ont constaté que ça leur coûtait de plus en plus cher. Donc il y a une logique qui pousse à ça, il y a en plus une logique européenne, hein, puisqu'en Europe on utilise actuellement 300 000 tonnes de pesticides, il y a une logique européenne qui pousse à diminuer les quantités et à supprimer un certain nombre de ces produits. Oui.
Et la question des agrocarburants, là on va avoir Jean Ziegler qui va faire une déclaration là aux Nations Unies, il veut un moratoire sur les agrocarburants, je ne dis pas biocarburants.
Hein, merci. Voilà. Merci.
Votre point de vue là-dessus ?
Il y a eu un consensus pour ne pas le mettre dans le sujet. Donc, ça n'a pas été évoqué. Et donc, il est clair déjà que les agrocarburants ne sont pas considérés comme une énergie nouvelle ou un substitut acceptable de l'environnement. Donc, ils n'en ont finalement pas parlé, ce qui est en fait un succès.
Mais il n'est pas impossible que les agrocarburants aient été en douce échangés contre les OGM. C'est tout à fait possible dans la négociation qui s'est déroulée en coulisses.
Donc, ça fait longtemps que vous suivez les problèmes écologiques tous les deux comme journaliste et comme écrivain, comme auteur. Donc, ça vous semble quand même un moment plutôt positif, quoi.
Incontestablement, pour les raisons qu'on a dites, pour l'officialisation du changement de logique possible qui est inscrite, et pour la méthode elle-même qui est très intéressante. Et j'ajouterai juste un dernier mot. Moi, j'étais très intéressé par la façon dont le mouvement écologiste s'est assez bien rassemblé, a bossé ensemble, a été très efficace, professionnel et a pu faire passer beaucoup de choses.
Claude Marie-Vadreau.
Oui, c'est assez positif, mais je crains encore qu'il s'agisse d'un feu de paille. Qu'est-ce qui va se passer demain, après-demain, 15 décembre et en cours de 2008 quand l'enthousiasme sera retombé? D'autre part, je voudrais être certain que les déclarations des Français dans les sondages qui sont à 80, 90, 95% selon les cas favorables à l'écologie, favorable à un geste en faveur de l'écologie, je voudrais savoir s'ils sont vraiment sincères et si on n'est pas là dans le politiquement correct, tout simplement.
Voilà, Claude-Marie Vadreau et Hervé Kempf. On va joindre par téléphone Paul Ariès. Paul Ariès, objecteur de croissance animateur d'un journal qui s'appelle Le Sarcophage contre tous les sarcosismes et qui était l'un des instigateurs d'un contre-grenelle de l'environnement, d'ailleurs avec ceux qui y ont participé. Un ouvrage a été publié qui s'intitule « Pour repolitiser l'écologie ». Paul Ariès. Paul Ariès, vous avez organisé, pour ce qui vous concerne, un contre-grenelle de l'environnement. Donc, c'était vraiment quelque chose contre quoi vous vous opposiez dès le départ.
Oui, c'est-à-dire que le contre-grenelle avait en fait deux objectifs. C'était de dénoncer cette tentative d'OPA tout à fait inamicale de la droite et des milieux d'affaires sur l'écologie. C'est-à-dire que ce qui nous semble dangereux, c'est finalement l'idée qu'il pourrait y avoir une sorte d'union sacrée autour des questions environnementales, mais qui serait en fait tout simplement une union sacrée autour de Sarkozy. C'est-à-dire que ce qui a motivé le contre-Grenelle, c'est tout simplement un constat. C'est-à-dire que le Grenelle officiel est sarco-compatible, alors que le sarkozisme n'est pas, lui, à nos yeux, écolo-compatible.
Quand vous dites « à nos yeux », c'est les yeux de qui? De Paul Ariès, et puis?
Alors, je dirais que le contre-Grenelle a réuni à la fois, je dirais, des opposants de l'extérieur, hein, un certain nombre de mouvements qui n'étaient pas convoqués au Grenelle officiel ou qui n'ont pas voulu y participer, mais aussi des dissidents de l'intérieur, c'est-à-dire un certain nombre de mouvements qui, tout en étant partenaires du Grenelle officiel, considéraient que les comptes n'y étaient pas et qu'il était nécessaire de tenir un discours dissensuel. Parce que, à nos yeux, le grand piège serait de laisser croire qu'en matière d'écologie, on pourrait faire plaisir à tout le monde. C'est-à-dire qu'il y aurait des solutions favorables à la fois aux riches et aux pauvres, alors que l'écologie, c'est une question de choix de société. Donc il y aura forcément des gagnants et des perdants. Le grand enjeu est de savoir qui.
Mais vous avez suivi, évidemment. Vous êtes contre, mais vous avez suivi.
Oui, d'autant plus qu'un certain nombre, effectivement, je dirais, de nos propres partenaires comme Action Consommation, comme la Confédération Paysanne et autres, sont des partenaires du Grenelle officiel. Donc je dirais que c'est un cheminement commun pour, effectivement, voir finalement ce qu'on nous prépare et ce qui peut ressortir de ce qui, à nos yeux, n'est simplement... Je dirais, c'est pas seulement une mascarade verte, c'est plus que ça. Le grand danger, à nos yeux, c'est la possibilité, finalement, de laisser croire qu'on pourrait avoir une sorte de capitalisme vert.
Oui.
Et pour nous, je dirais que c'est même pas un Grenelle de l'écologie, c'est un véritable Munich de l'écologie qui est en train de se préparer.
Alors, quand, par exemple, on nous dit il y a des chances pour qu'on gèle le développement des autoroutes, par exemple, ou qu'on obtienne un véritable moratoire sur les OGM, etc. Est-ce que ça vous semble quand même des résultats positifs, ou bien vous dites non, nous on rejette tout en bloc?
Ah non, je dirais que notre position, elle n'est pas du tout jusqu'à boutiste. Je dirais que c'est pas parce que tout ne serait pas possible maintenant qu'on s'inscrit contre la logique du Grenelle officiel. Je dirais que si effectivement on va non pas seulement vers un gel provisoire, mais effectivement un véritable moratoire de la construction des autoroutes et du système routier en général, eh ben ça ne pourrait être que positif. Moi, je rappellerais simplement que l'Alliance pour la planète, hein, qui réunit des dizaines d'associations, disait que le Grenelle officiel n'aurait pas de sens s'il n'y avait pas quatre moratoires durables. Celui sur les autoroutes, celui sur les incinérateurs, celui sur le nucléaire et celui sur les OGM. Concernant les OGM, ma grande crainte, c'est que la fameuse loi qu'on nous propose, ça soit une sorte de marché de dupes. C'est l'idée que certains pourraient faire des OGM et que d'autres pourraient choisir de ne pas en faire. Je dirais que c'était pas du tout le débat qui avait été posé. La question étant de savoir si, aussi bien du point de vue, je dirais, de la protection de l'environnement, mais aussi du type d'agriculture, il faut accepter le principe même des OGM. Et l'idée d'aller finalement vers une solution libérale, c'est-à-dire que moi je ne fais pas d'OGM et si mon propre champ est tout simplement pollué, je vais m'adresser à des tribunaux pour obtenir des dommages et intérêts, ça nous semble aller effectivement vers une lecture libérale de l'écologie et finalement, je dirais tout simplement, ne pas remettre en cause les logiques dominantes.
C'est ça, c'est-à-dire que vous militez pour la décroissance et dans ce Grenelle, vous n'y trouvez pas votre compte.
Alors je dirais que c'est pas simplement en tant qu'objecteur de croissance hein, qu'on n'y trouve pas notre compte. Je dirais que les partenaires du contre-Grenelle étaient beaucoup plus larges que simplement les milieux de la décroissance. Mais prenons le slogan de campagne hein, de Nicolas Sarkozy, « Travailler plus pour gagner plus ». À nos yeux, je dirais qu'on ne peut pas faire plus anti-écolo. Puisque finalement, c'est quoi? C'est le culte du travail, le culte de la croissance. Il suffit de rappeler deux chiffres pour se rendre compte que c'est pas possible. Aujourd'hui, 20% des humains s'approprient 86% des ressources naturelles. Alors, c'est déjà pas joli par rapport à nos propres valeurs, hein, comme l'égalité ou la fraternité, mais ça serait pas forcément si grave si on pouvait avoir l'espoir que le gâteau puisse grossir. C'est-à-dire qu'il y a un rattrapage possible. Et c'est là où on tombe sur le deuxième constat. Si 6 milliards d'humains vivaient comme des Français, une seule planète Terre ne suffirait pas, il en faudrait au minimum 3. Donc laisser croire que la croissance économique serait la solution pour les pays riches, je dirais que c'est non seulement complètement mensonger, mais c'est aussi un particulièrement pervers. On est en train de se rendre compte qu'en réalité Sarkozy avait deux fers au feu. C'est-à-dire que d'un côté, on avait le Grenelle de l'environnement, et puis d'un autre côté, on avait le Front de Libération Nationale de la Croissance, Canal Attali. Et qu'est-ce qui va finalement ressortir de tout ça? C'est-à-dire, qui va l'emporter? Est-ce Attali ou Borloo? Je crois que ce qui va l'emporter, bah, c'est tout simplement le discours du MEDEF, le discours de Florence Parisot depuis plusieurs années. C'est-à-dire un peu de croissance pollue et beaucoup de croissance dépolluerait.
J'ai donc, je vous l'ai dit, Paul Ariès avec moi, Hervé Kempf et Claude-Marie Vadrault qui vous écoutent très attentivement et je vais leur demander de vous poser une question s'ils en ont envie. Hervé Kempf.
Paul Ariès, cette expression munique de l'écologie, à la réflexion, est-ce que vous la maintenez?
Ben, moi, ce qui me semble effectivement particulièrement grave, c'est aujourd'hui la défaite de l'écologie politique. C'est de ce point de vue-là, c'est-à-dire de laisser croire, je dirais au-delà des opérations gadgets, hein, le fait d'éteindre 5 minutes son électricité, c'est de laisser croire qu'il serait possible de s'entendre avec la droite et avec les milieux d'affaires et avec les milieux technoscientistes pour effectivement sauver à la fois, je dirais, la planète et les plus pauvres. Et donc, de ce point de vue-là, oui, c'est une démission. C'est une véritable démission du politique. Et laisser croire que l'on pourrait aujourd'hui, je dirais, continuer les mêmes logiques dominantes et que finalement, que la crise environnementale, ça serait simplement un problème de dysfonctionnement. Et qu'en se contentant de repeindre un peu en vert, je dirais, les guérites de la société de production et de consommation, on s'en sortirait, eh bien, je crois que c'est un marché de dupes et qu'on va finir par, je dirais, en payer gravement les conséquences. Mais il ne s'agit pas simplement de critiquer ce Grenelle. Il s'agit de proposer aussi d'autres choses. On nous parle aujourd'hui, par exemple, de la possibilité, grâce à ce Grenelle, d'aller vers davantage d'alimentation bio dans la restauration scolaire. Je dirais que là aussi, ça peut sembler plaisant, mais ça risque d'être, je dirais, tout simplement une fausse bonne solution. Parce que quand on regarde l'évolution de la réglementation européenne, en matière d'agriculture aujourd'hui, on se rend compte que ce qui est en jeu, c'est d'aller vers la généralisation de la bio-industrie. C'est-à-dire que nous, ce qui nous semble important, C'est au contraire de dire il faut réintroduire, un chef dans les cantines scolaires. Il faut proposer une alimentation avec des produits locaux et de saison, et si possible, des produits bio.
Paul Ariès, une question de Claude-Marie Vadreau.
Une remarque d'abord. Tout ce qui peut soulager la souffrance de la planète est bon à prendre, même si c'est sous Sarkozy. Et une question, de quel droit le citoyen français repu que je suis va-t-il demander à l'Afrique, à l'Asie, à l'Amérique latine de se lancer dans la décroissance alors qu'ils ont besoin d'améliorer leur qualité de vie ?
Alors, donc deux questions, donc deux réponses. Tout d'abord, est-ce qu'il faut refuser ce qui serait finalement des solutions intermédiaires ? Sûrement pas. Mais c'est pas de ce point de vue-là que la question se pose. Je crois qu'il est important de rappeler que la notion de développement, l'idéologie du développement, je dirais qu'elle est née dans un contexte historique bien particulier qui est celui de l'après-Seconde Guerre mondiale. C'est Truman, le président américain, qui avance cette perspective pour tout simplement offrir une alternative au développement du socialisme. Et l'idéologie du développement durable, elle n'est pas apparue non plus comme ça, de manière neutre. C'est dans le contexte de la révolution conservatrice mondiale que finalement cette notion de développement durable s'est imposée et a largement contribué, tout simplement à désarmer théoriquement, idéologiquement, politiquement, la gauche et les mouvements sociaux. Aujourd'hui, la droite et les milieux d'affaires ont un véritable projet, alors que la gauche est à faune. Parce qu'effectivement, la gauche ne peut pas dire qu'on va faire payer la crise environnementale, la crise écologique aux plus pauvres. C'est tout le débat sur les agrocarburants. Est-ce qu'il s'agit, de voir comment on va pouvoir nourrir 6 ou 7 milliards d'humains, ou est-ce qu'il s'agit de nourrir nos voitures ? Je dirais que ce n'est pas une question que le compte n'y est pas. C'est vraiment une question d'orientation sur la décroissance. Je dirais qu'il est évident que la première décroissance qu'il s'agit de viser, c'est la décroissance des inégalités. C'est-à-dire que ce n'est pas la décroissance de tout pour tous. Cette décroissance, elle doit être forcément équitable et sélective. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont devoir croître, il y a des choses qui vont devoir décroître, mais il faut avoir le courage politique de dire que tout ça va devoir se faire dans un contexte global de décroissance. Prenons un chiffre. On sait que la Terre ne peut pas absorber chaque année plus de 3 milliards de tonnes d'équivalent carbone. C'est-à-dire que si on traduit l'ensemble de nos activités, le fait de manger, de se déplacer, d'avoir des loisirs en équivalent carbone, si on dépasse ces 3 milliards, ça signifie qu'on rend à nos enfants une Terre qui est un peu moins viable. Depuis les années 70, nous avons dépassé ce maximum. Nous en sommes aujourd'hui à peu près à 6,7 milliards. Mais prenons au sérieux ce 3 milliards de tonnes d'équivalent carbone pour 6 milliards d'humains. Ça fait 500 kilos d'équivalent carbone par personne et par an. Et 500 kilos d'équivalent carbone, c'est quoi ? C'est un vol en avion aller-retour Paris-New York. C'est 5000 kilomètres par an en voiture. Quand on prend, conscience de cette situation, on se rend compte immédiatement que la solution, ça ne peut pas être de faire la même chose en moins. La solution, ça ne peut pas être simplement de se serrer un peu la ceinture. Ça va être véritablement d'inventer de nouveaux modes de vie. La croissance économique, ce n'est pas la solution pour les pays riches, mais je dirais que notre modèle de développement n'est pas non plus la solution pour les pays pauvres. Laisser croire que l'avenir serait à la voiture climatisée pour tous, c'est totalement suicidaire. Je crois qu'il est important à la fois de reconnaître notre dette écologique ou environnementale vis-à-vis des pays du Sud, et en même temps de dire à nos amis du Sud, c'est pas parce que vous êtes pauvres que vous avez le droit de bousiller la planète.
Paul Ariès,
il y a véritablement la nécessité, à l'échelle internationale, d'une redistribution totale des richesses.
Alors, quelqu'un qui a participé de l'intérieur à ce Grenelle de l'environnement, c'est Marie-Christine Blandin. Marie-Christine Blandin est sénatrice du Nord-Pas-de-Calais. Et pour elle, ce Grenelle de l'environnement a suscité beaucoup d'espoir et beaucoup de mobilisation qu'il serait mal placé maintenant de décevoir.
La première phase, elle est plus mobilisatrice que je pensais. Et dans les régions, on s'aperçoit que ça draine plus de 1000 personnes à chaque fois. Donc ça sème un espoir très fort chez des militants, chez des scientifiques, chez des professionnels qui sentent venir le désastre annoncé du climat et de la biodiversité et qui se disent, bon, ça serait bien de négocier le virage, quoi. Donc, ces gens-là se sont tous mis autour de la table, ont coproduit des choses intelligentes. Et il y a eu des gros efforts, hein, les armures sont restées au placard. La FNSEA qui travaille avec Greenpeace, la CGT avec le MEDEF, c'est pas tous les jours. Donc tout le monde a pris sur soi pour taire des préjugés ou même des connaissances réelles d'un passé conflictuel. Mais aujourd'hui, Sarkozy est au pied du mur. Et quand Vivret dit ce gouvernement libéral, lui il appelle ça décédé, parce que c'est dérégulation, croissance, délocalisation, c'est vrai que ces axes-là, c'est aux antipodes des axes nécessaires pour négocier le virage, pour que la société fasse bien sa transition par rapport à la dérégulation climatique, aux pollutions, à la désintoxication chimique et tout ça. Donc là, on rentre dans la deuxième phase, la phase où la coproduction de la société civile va se heurter de plein fouet à l'arbitrage du président de la République, dont je n'imagine pas qu'il se déshabille de ses convictions néolibérales.
Oui, donc, c'est ça.
C'est un rendez-vous hautement chaud, médiatiquement intéressant et politiquement aiguisé. Hein. Mais par contre, où on tombe dans le non-démocratique et l'arbitraire, c'est qu'on ne sait pas de cette table ronde et de ce qui va sortir ce que va faire Sarkozy. Est-ce qu'il se donne encore derrière un droit de tirage? Et ça aussi, c'est un beau rendez-vous.
Parce qu'a priori, c'est consultatif, c'est ça le...
Ah, on ne sait pas.
On ne sait pas.
Et d'accord. Le propre de la démocratie participative, parce qu'on a déjà fait des chartres, hein, c'est la représentation de tout le monde. Ok, ça a été bien fait. Le remboursement des participants, ok, ça a été bien fait. La consignation des choix, ça a été bien fait. La connaissance par tous les participants du devenir de leur proposition, trou noir.
Ah, le fait du prince.
Bah ouais, on sait pas ce que ça va... On sait pas à quelle mécanique ça va être soumis. On saura tout jeudi 14h, le risque, c'est une grande virtuosité de communication qui masquerait des renoncements. Donc il faudra des décrypteurs avisés.
Très bien, on y veillera.
Voilà, vers 17h, le président de la République devrait clore ce Grenelle de l'environnement par une déclaration. Nous, on va aller à New York, on va rejoindre Jean Ziegler, je vous le disais. Je rappelle que Jean Ziegler est rapporteur de l'ONU, des Nations Unies, pour le droit à l'alimentation. Et il va demander un moratoire sur les biocarburants qui, selon lui, vous connaissez Jean Ziegler, est responsable d'hécatombe. Les biocarburants responsables d'hécatombe à New York, Jean Ziegler. Jean Ziegler, vous êtes à New York, il est 8h du matin pour vous, et tout à l'heure, vous allez intervenir à l'Assemblée Générale des Nations Unies pour présenter un moratoire sur les agrocarburants pendant 5 ans.
Donc dans une heure, je suis devant l'Assemblée Générale des Nations Unies, où je dois présenter mon rapport annuel, si vous voulez, analytiquement sur le droit à l'alimentation, puisque je suis le rapporteur spécial sur le droit à l'alimentation, et la principale recommandation que je fais aux États et qui ensuite se transformera en résolution, je l'espère, est d'ordonner un moratoire de 5 ans pour la production du biodiesel et de l'éthanol, de tous les agrocarbures pendant 5 ans, arrêter tout, permettre à la science de progresser, elle progresserait très rapidement, notamment en France, et dans 5 ans, je crois, tout le monde le pense, nous serons capables de transformer en bioéthanol ou en biodiesel les déchets agricoles et non plus les plantes nourricières elles-mêmes, la tige du blé et non plus l'épi.
Parce que vous dites, on va vers une catastrophe.
Ah bah oui, elle est déjà là. Vous savez que la faim dans le monde, ce massacre quotidien progresse d'année en année, aujourd'hui 854 millions de personnes, un homme sur six sur la planète est gravement et en permanence sous-alimenté, invalide, mutilé par la faim. Tous les 5 secondes, un enfant dessous de 10 ans meurt de faim. Tous les 4 minutes, quelqu'un perd la vue par manque de vitamine A. Et 100 000 personnes meurent tous les jours de faim ou de ses suites immédiates, c'est-à-dire les maladies de la carence et de la malnutrition. C'est l'état actuel.
Quel rapport avec les agrocarbures?
Ah ben, c'est évident. Il y a eu un transfert massif les 2 dernières années, notamment aux États-Unis et au Brésil, des terres vivrières destinées à la production agricole, nourricière, vers la terre productrice de matières premières pour le bioéthanol. Par exemple, pour 50 litres de maïs, pour remplir le réservoir d'une voiture qui fonctionne au bioéthanol, il y en a beaucoup au Brésil, par exemple, vous brûlez 232 kilos de maïs. C'est-à-dire, avec 232 kilos de maïs, un enfant sans bien ou mexicain, pour prendre des pays où le maïs est nourriture de base, peut vivre toute une année. Résultat, maintenant, où nous parlons, le prix du blé, durant une année, a plus de doublé, le prix du maïs a plus de quadruplé. Alors, je vous prends quelques exemples très rapidement. Sur les 53 pays africains, 31 ne connaissent pas l'autosuffisance alimentaire, c'est-à-dire ils doivent acheter tous les ans, en devise, sur le marché mondial, le maïs, le mil, etc., qui manque pour la soudure. 230 000 tonnes l'année dernière, par exemple, pour le Burkina Faso. Si le prix du maïs ou du mil ou du blé double ou quadruple, il est évident que ces pays les plus pauvres de la Terre ne peuvent plus acheter le volume nécessaire de nourriture dont ils ont besoin pour maintenir en vie leur population. Les prix de la terre augmentent d'une façon formidable parce que le profit que les sociétés multinationales tirent du bioéthanol et du biodiesel est tout à fait considérable. Par exemple, en Colombie, nous assistons à une vague d'expulsion par les paramilitaires avec assassinats à la clé, contraintes et tortures de dizaines et des dizaines de milliers de paysans, notamment dans le Choco et ailleurs, qui sont chassés de leur terre de subsistance pour faire place aux grandes sociétés multinationales qui veulent sur ces terres-là planter la matière première pour la transformation en bioéthanol. Alors, la catastrophe est évidente. L'aide alimentaire internationale, je prends un exemple, le PAM, le Programme alimentaire mondial, a aujourd'hui les moyens pour acheter la moitié seulement de la nourriture dont il a besoin pour nourrir les personnes qui n'ont plus rien, puisque l'économie a implosé, ravagée par la guerre, ravagée par les dommages climatiques, et ainsi de suite. L'année dernière, le PAM a nourri 91 millions de personnes, maintenues en vie, très concrètement. Bien, aujourd'hui, il a la moitié des moyens qu'il avait l'année dernière. Je vous laisse imaginer les conséquences concrètes sur des hommes, des femmes.
Alors, est-ce que ça veut dire que vous êtes contre les agrocarburants? Qu'est-ce que vous souhaitez exactement? Qu'est-ce que vous préconisez?
Alors, je veux vous dire, d'abord, il est évident que le climat se détériore d'une banalité. Il est évident que les centaines et des centaines de millions de voitures qui roulent à l'essence, aux produits fossiles, éjectent du CO2 dans l'atmosphère, etc. et sont responsables, gravement responsables, entre autres, de cette détérioration du climat. Il faut faire quelque chose, c'est évident. Alors, il y a trois attitudes. Celle du président Bush, qui dit « c'est la solution, sauvons le climat, en même temps réduisons notre dépendance des pays du Moyen-Orient », ce qu'il a dit récemment au New York Times, c'est-à-dire hier, très exactement, il a dit « le golfe du Mexique doit devenir le golfe Persique sans le terrorisme ». Ça, c'est une attitude, ou celle de Lula qui dit « je veux réduire la dette extérieure du Brésil, qui est la deuxième dette la plus importante de tous les pays du tiers-monde, je dois exporter, qu'est-ce que je peux exporter? C'est du bioéthanol, et en même temps je réduis ma facture pétrolière ». Ça, c'est une attitude qui ignore complètement l'aggravation du massacre, ceux qui payent ensuite par leur vie, par leur santé, pour cette substitution qui doit toucher en 5 ans 26 millions d'hectares entre États-Unis et Brésil, qui doivent être réaffectés de la production nourricière à la production de l'agrocarburant. Ensuite, il y a une deuxième position totalement opposée, Nicolino et d'autres, qui disent de toute façon, c'est un leurre des biocarburants, parce que pour les produire, il faut un volume d'énergie fossile et surtout de l'eau tout à fait disproportionné, c'est-à-dire faire du biocarburant qui permet ensuite, c'est vrai, de faire rouler des voitures d'une façon plus propre, mais pour le produire ce carburant-là, de toute façon, on doit brûler tellement d'énergie fossile que ça ne vaut pas le coup. Et il y a ma position, enfin je dis ça un peu orgueilleusement, d'une façon arrogante, le Conseil des droits de l'homme et moi comme rapporteur spécial avec mon équipe prend, c'est celle du moratoire. Allant au plus pressé, stoppons maintenant la production à partir de plantes nourricières, donnons la chance aux laboratoires qui encore une fois avancent très très vite dans leurs recherches, et une fois que on peut produire du biocarburant, du carburant agricole par avec des déchets agricoles ou par des buissons avec du chatrofa. Et là, le moratoire, je crois, a une chance. L'interdiction totale et permanente devant les 192 États que je vais affronter, enfin, les ambassadeurs et ambassadrices tout à l'heure, que je vais affronter tout à l'heure dans la grande salle des Nations Unies, sur l'Est d'hiver, l'interdiction totale n'aurait évidemment aucune chance. Le moratoire a une chance raisonnable de passer.
Vous avez dit affronter.
Il y a des immenses groupes financiers, il y a des milliards et des milliards en jeu. J'ai vu récemment dans le Iowa une de ces usines de bioéthanol à partir du maïs qui brûle le maïs et qui le transforme en bioéthanol. C'est extraordinaire comme étendue, comme technologie et surtout comme capitaux qui sont nécessaires pour cette opération. Et les profits impliqués sont totalement faramineux. Alors Monsanto, Syngenta, Cargill, enfin des grands trusts de l'agro-industrie, quand il a un départ comme celui de ce matin, eh bien, ils ont leur connexion à la Maison-Blanche, ailleurs, dans les couloirs des différents gouvernements dont les ambassadeurs sont là. Et ces gouvernements, évidemment, très très fréquemment, sont ouverts à l'influence financière. Je dis pas c'est la corruption par un chèque, mais enfin, c'est des puissances énormes. Et je ne pense pas que tous les ambassadeurs de tous les pays industrialisés fabricants du bioéthanol maintenant votent dans une totale liberté. Donc l'adversaire est sérieux et la bataille est loin d'être gagnée.
Ok, Jean Ziegler, merci. Il nous reste quelques minutes et on va rejoindre José Bové en direct après Jean Ziegler qui se bat contre le monstre là-bas à New York. Il y a sur le Larzac celui qui se bat contre le monstre depuis des années et qui suit évidemment de très très près ce Grenelle de l'environnement. José ?
Oui, bonjour.
Bonjour. Alors, conclusion ?
Écoute, conclusion de cette matinée, là on a eu face aujourd'hui à véritablement la logique du double langage, de la volte-face, et c'est vrai qu'on a eu le droit à une intox. D'abord une première intox ce matin sur les pesticides, où vers 10h on a annoncé à tous les braves Français que les pesticides allaient être divisés par deux dans les 10 ans à venir, et une heure après, revirement de situation, il n'est plus question de diviser les pesticides par deux, tant qu'on n'a pas trouvé d'autres pesticides plus efficaces. Et ça, évidemment, sous la pression de la FNSEA, qui s'est d'ailleurs félicité de l'abandon, donc de la diminution des pesticides. Ça a été la première volte-face de la matinée. Et la deuxième, je crois, est encore plus extraordinaire, c'est celle du double langage. C'est sur les OGM. Pendant les négociations, l'Alliance pour la planète avait demandé que soit inscrit très clairement la clause de sauvegarde, que la France saisisse la clause de sauvegarde, c'est-à-dire dise à l'Union européenne, pour des raisons aujourd'hui scientifiques, pour la protection des systèmes agricoles, pour la protection de l'environnement, on demande l'arrêt de l'utilisation du maïs Monsanto 810. C'était quelque chose de très clairement marqué, ça faisait suite à des nouvelles connaissances scientifiques, et Monsieur Borloo, pendant le Grenelle ce matin, a dit « Je suis d'accord, la France va saisir l'Union européenne et va demander la clause de sauvegarde ». À deux reprises, il l'a dit. Et quand Monsieur Borloo est sorti devant la presse, eh bien, il a parlé d'un gel des OGM jusqu'au mois de janvier, le temps qu'on mette en place une loi. Alors, évidemment, on a deux discours différents. Un, dans la salle de discussion, et ça ramène à ce qu'a dit Marie-Christine Blandin tout à l'heure, évidemment, qui va prendre la décision finale? Ça va être certainement Sarkozy à 17h, on va bien voir ce que Sarkozy va dire. Mais il est évident aujourd'hui que, d'un côté, on nous annonce la clause de sauvegarde, et c'est ce que nous demandons pour qu'il y ait enfin un véritable moratoire, et qu'ensuite on puisse mettre en place une loi qui organise la liberté et le droit de produire et consommer sans OGM, et ça pendant l'année 2008. Or, M. Borloo dit l'inverse maintenant. Donc on a un double langage, et c'est pour ça que j'appelle tous ceux qui sont aujourd'hui mobilisés dans cette lutte contre les OGM à rejoindre le rassemblement du réseau Sortir du Nucléaire qui revendique un moratoire contre la centrale EPR, samedi après-midi à Paris à 15h. Je pense que c'est très important qu'on continue à se mobiliser. Et malheureusement, on avait envisagé ces derniers jours, et on l'avait annoncé, qu'on serait obligé certainement d'entamer une grève de la faim illimitée pour obtenir cette clause de sauvegarde, que la France mette en place cette clause de sauvegarde. Si à 17h, les propos de M. Sarkozy ne sont pas plus clairs, eh bien nous allons être certainement obligés de nous réunir pour envisager très sérieusement dans les jours à venir la mise en œuvre de cette action. Alors c'est évidemment aujourd'hui quelque chose de très choquant. Beaucoup de gens se sont investis sur cette mise en place de cette clause de sauvegarde, de cette liberté pour les producteurs et les consommateurs de ne pas être envahis par les OGM. Et bien aujourd'hui, on a l'impression que la communication qui est faite par le gouvernement, une fois de plus, se fait au bénéfice Merci. Des multinationales et des agro-industriels.
Merci, merci José Bové, merci à tous. Réclame.